L'étude scientifique du monde, parce qu'elle est essentiellement analytique, nous fait d'abord marcher en sens inverse des réalités divines. Grand 2. Mais d'autre part, cette même pénétration scientifique des choses, en nous révélant la structure synthétique du monde, nous conduit à faire volte-face et nous rejette, par son prolongement naturel, vers le centre unique des choses, lequel est Dieu notre Seigneur. Grand 1. Impuissance de la science à trouver Dieu au cours de ses démarches analytiques. Quoi qu'en disent les pragmatistes à outrance, les utilitaires, ce que l'homme cherche tout le long de sa vie, ce qu'il poursuit plus que le pain et tout le bien-être matériel, c'est le savoir. L'essence même de notre vie est de tendre non pas à être mieux, mais à être plus. Or, un instinct plus fort que toutes les remontrances des sceptiques et des faux sages nous en avertit. Pour être plus, il faut d'abord que nous sachions plus. Enracinés dans notre esprit, nous portons tous la conviction que quelque part autour de nous est caché un feu mystérieux qu'il s'agit de dérober pour être heureux. Flamme pour éclairer notre vue sur le sens profond du monde, instrument pour dominer et refondre les choses. L'humanité a toujours vécu, elle vit encore, de cet espoir tenace que nous pouvons, à force de scruter la nature, découvrir le secret du réel, mettre la main sur les ressorts de la croissance des êtres. Trouver le secret, trouver la source. Et la recherche du savant, si positiviste qu'il se prétende, se nuance, se frange, ou plutôt elle est animée invinciblement au fond par un espoir mystique. Ainsi donc, la tendance essentielle de notre esprit est de chercher à pénétrer au cœur du monde. Mais où faut-il que nous portions nos pas pour arriver au point désiré où toute obscurité doit se fondre en lumière, tout antagonisme devenir le serviteur docile de notre action? Il est probable que les hommes ont pu, pendant quelque temps, s'imaginer que le secret du monde se cachait dans le lointain géographique. Si nous pouvions, pensaient-ils, arriver jusqu'aux régions les plus lointaines ou les plus inaccessibles de la Terre, gagner le sommet des Olympes, percer la profondeur des forêts, atteindre la source des grands fleuves, mettre le pied aux antipodes, descendre dans les entrailles du sol impénétrable, nous rencontrerions sans doute la demeure des âmes ou des dieux. Nous atteindrions un prolongement ou même une autre face des choses. Un grand voyage, un raid hardi, c'eût été assez pour nous mettre en présence du mystère qui nous inquiète. Le divin ne nous était voilé que par l'opacité des corps ou des brumes de l'horizon. Bien avant qu'une exploration méthodique ait achevé le circuit de la terre et le sondage des abîmes, nous avons souri, mes amis, de ces imaginations d'enfants. La simple réflexion nous a fait voir qu'à parcourir l'univers en surface, nous ne pourrions jamais rien rencontrer que des semblables à nous-mêmes. Le monde est formé de zones successives, de plans étagés, de sphères concentriques d'existence qui se commandent les unes les autres. Pour savoir plus, il faut quitter le cercle sur lequel se meut la vie présente. La lumière ne se fera qu'en profondeur. Nous ne la verrons briller que si, abandonnant l'écorce des êtres, nous parvenons à découvrir ce qui se cache en eux, au fond. L'homme, ayant compris qu'il pouvait faire le tour de toutes les choses sans rien trouver qui pût les lui faire comprendre, s'est décidé à les pénétrer. Mais qu'est-ce au juste que pénétrer dans la profondeur des choses? Que signifie cette métaphore? Tout être a deux pôles. Un pôle inférieur, d'où il sort, un pôle supérieur vers lequel il monte. Suivant quelle direction devient-il pénétrable, explicable? Suivant la route précise qui descend dans le secret des corps, ou bien suivant le chemin voilé qui monte vers les prolongements de l'âme? Pour la grande majorité des hommes, il semble que la question ne se pose même pas. Quand nous voulons savoir ce qu'il y a dans un appartement, nous ouvrons la porte. Dans une montre, nous la démontons. Dans une noix, nous la brisons. Le premier mouvement de l'esprit qui veut savoir en quoi consiste une chose, c'est de la mettre en pièces, c'est de l'analyser. Toute la science est sortie de ce geste instinctif. La science est essentiellement une analyse. Sa méthode de recherche, ses conclusions, sont dominés par ce principe que le secret des choses est dans leurs éléments, de sorte que pour comprendre le monde, il suffit d'arriver aux termes les plus simples d'où il est sorti. Vous connaissez aussi bien que moi les progrès étonnants réalisés en ce siècle par l'homme dans son travail d'analyse du réel. Grantin, dans le domaine de la matière inanimée, nous sommes arrivés à une séparation visuelle extraordinaire des éléments supérieurs et inférieurs de la matière. Au-dessus de nous, grâce à des mesures très précises permettant de situer les astres dans l'espace et d'apprécier leur vitesse, grâce à des grossissements et à des méthodes photographiques qui ont individualisé les éléments des nébuleuses et fait surgir par milliers les nouvelles étoiles dans la voûte céleste, nous commençons à nous faire une idée de la structure sidérale de l'univers. Et nous sommes écrasés en découvrant que l'unité supérieure, macroscopique du monde, sa plus grosse molécule connue, c'est la nébuleuse spirale, des millions de voies lactées gravitant dans l'espace à perte de vue. Portant alors l'analyse dans le domaine microscopique, nous avons vu se révéler à nos yeux le deuxième infini de Pascal. D'abord visuellement, puis indirectement par des méthodes d'une ingéniosité et d'une précision admirables, nous avons fait apparaître, au sein de la matière, une série étonnante d'unités naturelles décroissantes. Particules colloïdales qui dansent sous l'ultramicroscope, molécules circulant dans les électrolytes ou s'agitant dans les gaz, fragments d'atomes électriques que nous savons maintenant compter et peser, suivre dans les phases minuscules de leur gravitation. Grand 2. La dissociation qu'elle opérait, optiquement ou chimiquement sur la matière brute, la science l'a réalisée parallèlement dans le domaine de la matière organisée. Successivement, le vivant nous est apparu formé de cellules, les cellules composées de protoplasma et de noyaux. On croyait la séparation achevée. Point du tout. Le noyau se révèle maintenant d'une complication extrême et sa structure nucléaire, invraisemblablement compliquée, est échafaudée elle-même sur un édifice moléculaire protéique encore incomplètement analysé, mais circonscrit avec précision. Voici donc, au cœur même de notre chair, la multiplicité découverte non seulement cellulaire, mais chimique. Par ce raccord, la substance vivante va rejoindre la série décroissante des molécules et des électrons. Grand 3. En même temps que la science déboîtait les éléments matériels du monde, elle en démontait les ressorts énergétiques. L'extrême complexité des mouvements physico-chimiques, depuis ceux qui font graviter majestueusement les astres jusqu'à ceux qui font vibrer les derniers corpuscules atteints par nos recherches, s'est peu à peu réduite à un groupe de composantes relativement simples. Tout l'équilibre du monde peut se ramener à un groupe d'équations régissant deux énergies, l'électromagnétique et la gravifique, et à quelques conditions exprimables en un groupe d'équations à quatre variables. L'une appuyant l'autre, l'analyse des masses et celle des énergies sont parvenues à une décomposition tellement poussée des choses en leurs éléments naturels que nous arrivons à ne plus discerner autre chose, comme trame dernière du monde, qu'une incroyable pluralité de particules, démesurément simplifiées, dont on ne saurait dire ce qui les distingue entre elles, ni ce qui les sépare du milieu où elles baignent. Ces parcelles ultimes sont si nombreuses, elles sont si peu individualisées qu'elles paraissent former une nappe continue d'énergie. Grand 4. Eh bien, ce monde infiniment dissocié auquel nous fait accéder l'analyse active, expérimentale, exercée par la science, une méthode différente vient nous garantir qu'il n'est pas une réalité fictive, un produit artificiel de nos opérations sur le réel. Si à l'étude spatiale des corps considérés dans le présent, nous faisons succéder leur étude dans le temps, l'observation de leur histoire, nous les voyons se dissoudre, s'éparpiller suivant la même loi. Aucun être organique ou inorganique n'apparaît en effet tout fait, tout formé, mais il se manifeste à l'expérience comme appuyé sur une série interminable d'états antérieurs, états divers de condensation de la matière, forme graduellement ébauchée de la vie. Cherchons à suivre jusqu'à l'origine cette chaîne d'états successifs. Au bout d'une chute dans le passé qui ne peut se comparer qu'à la chute dans la petitesse réalisée par l'analyse chimique des masses.